Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
À chaque fois que je suis déprimée dans la vie, j'ai juste à faire une entrevue avec Dr. Richard Béliveau, qui est docteur en biochimie, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et ça me remet de bonne humeur parce que il me rappelle à quel point la science est quelque chose de formidable, à quel point il y a à travers la planète des chercheurs brillantissimes qui arrivent avec des solutions innovatrices à tous les problèmes de santé. Donc, je me suis dit, oh, un petit lundi déprimant. On va faire une entrevue avec Dr. Béliveau qui va pouvoir nous dire quelles sont les dernières avancées là, dans la lutte à la COVID-19. Il est au bout de la ligne. Dr. Béliveau, bonjour.
Bonjour.
Ben, vous réagissez pas plus que ça quand je vous fais des compliments. Dr. Béliveau, vous êtes rendu habitué, vous êtes blasé. Vous êtes... Notre relation est rendue là.
Pas du tout. Je suis encore en état de choc, c'est pour ça que je suis sans voix.
Bon.
Non, mais vous avez raison de vous impressionner des progrès de la science qui ont été faits dans cette pandémie-là. C'est tout à fait exceptionnel. Et ce dont on a des vaccins qui fonctionnent remarquablement bien. On a maintenant un antiviral, le monupiravir de Merck, là, qui a été approuvé, qui fonctionne très bien. Et ce dont on va parler ce matin, c'est quelque chose de nouveau qui est en train de faire sa place, qui s'appelle les anticorps monoclonaux. Alors, on va un troisième outil absolument exceptionnel. Ces outils-là, normalement, prennent des années ou des décennies à se développer pour une maladie donnée. Et là, à cause de l'importance de cette pandémie-là, on a développé ces trois types d'outils-là dans à peine un an et demi. Alors, c'est absolument exceptionnel. Vous avez raison d'être enthousiaste sur la science. C'est inouï ce qui s'est produit dans cette période-là.
Alors, prenons-le mot par mot, parce que vous êtes, oui. Et c'est pour ça qu'on vous aime, et c'est pour ça que vous êtes si souvent dans les médias, vous êtes un excellent pédagogue, un excellent vulgarisateur. Alors, ce nouveau traitement, c'est pas préventif. C'est une fois que l'individu X a la maladie, on lui donne ce que vous appelez donc des anticorps monoclonaux. Alors, est-ce qu'on peut peut-être commencer par quoi des anticorps, puis après on s'intéressera à c'est quoi des monoclonaux?
Exact. Ben, d'abord, ce qu'il faut dire en tout début, là, c'est que ce dont on parle ce matin ne remplace pas la vaccination. Hein. La priorité, c'est de se faire vacciner. La seule façon de venir au bout de cette pandémie-là, c'est la vaccination. Mais dans certains cas, ces anticorps-là vont être utilisés. Alors, qu'est-ce que c'est un anticorps monoclonal? Ce sont des anticorps. Les anticorps, ce sont des protéines que le corps produit pour se défendre contre un agresseur. Mm-hmm. Alors, dans ce cas-ci, les anticorps monoclonaux, c'est des anticorps qui sont fabriqués spécifiquement en laboratoire pour traiter une maladie. La différence entre un anticorps et un monoclonal et un médicament ordinaire est énorme parce que les anticorps sont des macromolécules. Ce sont des grosses protéines, des immunoglobulines, et c'est impossible de synthétiser ça biochimiquement en laboratoire. Les anticorps sont donc produits par des cellules qui sont cultivées en laboratoire pour leur capacité à produire un anticorps particulier.
Incroyable! Donc, c'est comme un petit élevage. C'est comme un petit élevage. Exact. Sauf qu'au lieu de faire pousser des carottes ou au lieu d'élever des agneaux, on cultive des anticorps. C'est fascinant.
Oui. En fait, ce que les chercheurs de la compagnie, c'est l'entreprise, la firme Regeneron, ils ont pris des patients au début de la pandémie qui avaient survécu à la COVID et ils ont isolé des lymphocytes de ces patients-là. Ils ont testé les anticorps produits, parce que les anticorps sont produits par une classe de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes, et ils ont testé tous les lymphocytes qu'ils produisaient, parce que chaque lymphocyte ne produit qu'un type d'anticorps. Alors, si vous êtes, par exemple, un virus, si vous devenez un virus, là, votre système immunitaire va réagir contre votre auriculaire droit, contre votre poignet gauche, contre votre cou, contre votre oreille droite, contre votre... Bon, les anticorps réagissent contre des portions données d'une protéine. Chaque lymphocyte produit un anticorps spécifique. Un anticorps monoclonal, c'est un anticorps produit par un seul clone, par une seule lignée de lymphocytes et qui ne réagit donc contre une région donnée de la particule virale, du virus qui vous a infecté.
Donc c'est comme...
très, très, très raffiné.
Donc, c'est comme si, mettons, la différence entre si je vais à la baie m'acheter un veston et si je vais voir un tailleur puis qui me fait un veston sur mesure spécifiquement pour moi.
Exact. C'est ce que les chercheurs de Regeneron ont fait. Ils ont isolé des patients qui avaient survécu en pleine pandémie et ils ont donc trouvé des lymphocytes, des anticorps ultra performants. Et là, on a cloné les gènes codants pour ces anticorps-là et on les a transfectés dans des cellules qu'on pouvait cultiver à grande échelle en laboratoire dans des fermenteurs et on isole les anticorps produits par ces cellules-là. C'est extrêmement compliqué. C'est la raison pour laquelle les traitements avec les anticorps monoclonaux coûtent à presque 100 fois le coût d'une dose de vaccin. Donc, c'est des traitements qui sont très dispendieux et qui ne seront pas à être distribués à grande échelle. On n'aurait pas les moyens là, de traiter tout le monde avec ces anticorps-là. C'est ça. Ce sont des médicaments très dispendieux.
Mais il reste que, vous l'avez dit, donc on a option 1, les vaccins, puis il y en a de plus en plus, puis il y en a même un nouveau, là, on apprend ce matin, qui est rendu en phase 3. Donc, option numéro 1, les vaccins, c'est l'option qu'on privilégie. Option numéro 2, on a ce dont vous nous avez parlé dans une de vos chroniques la semaine dernière, le Pyravir, là, le monopiravir, c'est ça, de Merck?
Molnupiravir.
Bon, c'est ça. Et là, on arrive avec ces anticorps monoclonaux. Donc, on est en train de se dire, bon, on a comme toute une panoplie de différentes façons. Donc, l'espoir à court terme, Dr Béliveau, c'est qu'on puisse vraiment, avec cette panoplie de moyens-là, venir à bout de cette COVID.
Oui, ah ben oui, il y a pas de doute là-dessus. Ce dont on parle ce matin, ces anticorps monoclonaux-là réagissent contre tous les variants qui ont été testés. Donc, c'est des outils qui s'ajoutent à notre arsenal là, de lutte à la COVID. Je vous rappelle que ce médicament-là, c'est une combinaison de deux anticorps en fait. C'est très élégant ce qu'ils ont fait pour éviter qu'il y ait une résistance qui se développe au fil du temps avec des mutants, avec des variants du virus qui rendraient le médicament inefficace. En fait, c'est rare qu'on a ça en thérapie. Le Regen-Cov là, de Regeneron, c'est une combinaison de deux anticorps, le Casirivimab et l'Indivimab, et ça donne donc une meilleure réponse thérapeutique. L'indication pour laquelle c'est ciblé, c'est des patients qui ont déjà développé, qui ont déjà été infectés avec le virus, qui sont non hospitalisés. Donc, c'est des patients qui présentent une condition clinique de vulnérabilité immunitaire. Des gens qui ont été transplantés, des gens qui sont en chimiothérapie, des gens qui ont génétiquement une immunité plus faible ou qui ont des maladies auto-immunes, qui fait que leur système immunitaire n'a pas réagi de façon adéquate à vaccination ou qui réagissent mal à l'infection, qui ont une probabilité d'être hospitalisés ou de décéder, c'est ces gens-là que l'on cible. C'est pas l'ensemble de la population avec
ce vaccin,
avec ces anticorps-là.
Mais moi, j'ai une inquiétude, Dr Béliveau, parce que je trouve ça formidable, puis en effet, je suis très enthousiaste, puis chaque fois qu'il y a des nouvelles comme ça, je me dis, bon, il faut en parler. Puis en même temps, je me dis, il y a des gens qui sont encore des récalcitrants au vaccin. On l'a vu même en fin de semaine dans le Journal de Montréal, à la une du journal, cette jeune infirmière qui dit, moi, je veux rien savoir du vaccin. Quand on parle de ça, ce genre de médicament-là, est-ce que on risque pas de dire aux gens qui sont anti-vaccins, ben là, moi, j'ai pas besoin de me faire vacciner parce que si je tombe malade, moi, aller le prendre, moi, le médicament dont le docteur Béliveau a parlé l'autre jour à Cube Radio. Est-ce que vous avez cette crainte-là?
Non, parce que le médicament ne sera pas disponible pour ces cas-là. C'est pas l'indication.
D'accord. C'est pas le public cible.
Et comme vous l'avez dit très bien, c'est révoltant de penser qu'il y a encore des gens dans le système de santé qui ne sont pas vaccinés. C'est complètement hallucinant de penser à ça, de penser qu'on exige à des visiteurs qui accompagnent des patients à l'hôpital d'être vaccinés, puis qu'il y a du personnel qui est en contact direct avec des patients qui, eux, ne soient pas vaccinés. C'est une aberration absolument incroyable.
Oui, puis voir ça. Et puis, c'était intéressant en fin de semaine parce qu'il y avait donc cette jeune infirmière qui faisait la une du Journal de Montréal. Puis, quelques jours avant, dans Le Devoir, il y avait tout un dossier également sur du personnel soignant qui refusait de se faire vacciner. Et l'argument qui revenait le plus souvent, c'était les gens disaient, bon, on a des craintes par rapport au vaccin parce qu'on risque de développer une myocardite. Mais je me disais, mais c'est quoi l'idée, là? Si vous n'êtes pas vacciné, vous risquez de mourir. Qu'est-ce qui est le plus grave, avoir une myocardite à cause du vaccin ou mourir? Ça vous décourage pas, ça, Dr Béliveau?
Oui, ben je pense que ça décourage tous ceux qui sont en recherche en clinique là, de voir qu'il y a encore une tranche de population qui souhaite aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont d'être aussi contre les vaccins. C'est ce qui a sauvé l'humanité de l'extinction dans toute notre histoire. Là. Ce sont des outils scientifiques absolument incroyables pour lutter contre les maladies. Je vous rappelle que la vaccination donne une mémoire immunitaire. Hein? Ça veut dire qu'une fois que vous êtes vacciné ou vous êtes exposé à un virus, vous allez garder avec vos cellules mémoire le fait que vous ayez été exposé. Si vous aviez une réinfection, bien, votre système immunitaire va se réactiver. Dans le cas dont on parle ce matin, les anticorps monoclonaux, il n'y a pas de mémoire immunitaire. Ce n'est qu'un diachylon qu'on met de façon temporaire pour empêcher quelqu'un d'avoir des conséquences graves de l'infection au coronavirus. Ce n'est pas une protection à long terme. La demi-vie d'un anticorps dans le sang, d'une immunoglobuline dans le sang, c'est une vingtaine de jours. Il faut donc répéter ces injections-là. C'est pas une façon à long terme de contrer une pandémie puis de lutter contre l'infection. La seule façon de le faire à long terme, c'est avec la vaccination et ça... Il faut le répéter, il faut le dire, il faut que les gens qui ne sont pas vaccinés aillent se faire vacciner. La raison pour laquelle on traîne présentement, c'est, écoutez, quand on regarde les chiffres, là, on est 8 millions au Québec, là. S'il y a 5% de la population qui n'est pas vaccinée, c'est 400 000 personnes, là. C'est énorme, là. 400 000 personnes, s'il y en a 1% qui est hospitalisé, là, aux soins intensifs, c'est 4 000 personnes, c'est beaucoup, là. On peut pas, on n'a pas les moyens d'absorber ça. On est dans le même bateau, et là, il y a des gens qui s'amusent à percer des trous dans le fond du canot. Il faut qu'on soit cohérent puis qu'on ait une cohésion sociale. Et ceux qui sont pas vaccinés, mais qui se faire vacciner, qu'on sorte de cette folie-là là, qui dure depuis un an et demi.
Oui. Puis en même temps, docteur Béliveau, vous l'avez dit, on comprend pas comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui sont contre le vaccin. Si c'est Joe Blow qui est assis dans son sous-sol puis qui mange des chips, des Doritos à saveur barbecue puis qui habite encore chez sa mère, c'est une chose. Mais c'est des gens qui ont fait des études. La jeune infirmière, là, a passé du temps quand même sur les bancs d'école. Moi, j'ai entendu parler d'un radiologiste qui préfère perdre sa job plutôt que de se faire vacciner. Le gars, il a fait 10 ans d'études plus sa spécialisation. Un radiologiste qui est contre le vaccin, j'ai envie de m'arracher les cheveux.
Ben, les ordres professionnels n'ont pas été très, très interventionnistes là-dedans. Ils ont pris du temps à réagir. Ils ont été très faibles. On a laissé couler l'eau sous le pont. Je pense que les autres professionnels auraient dû prendre position beaucoup plus tôt dans ce dossier-là, puis menacer les gens qui se faisaient pas vacciner de d'incapacité de pratique. Et ça s'est pas fait, ça s'est fait tardivement. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de coupables là, dans ce dossier-là. C'est pas juste. Les récalcitrants, il y a de tout. Là. Il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui ont des craintes, il y a des gens qui sont ignorants, il y a de tout. Il y a des gens qui ont peur. Il faut, je pense, aller sur le terrain, aller chercher ces gens-là, les rationaliser, les sensibiliser. Il y a quelques récalcitrants qui sont dans des complotistes, mais c'est pas l'ensemble. Il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup de peur, les médias sociaux sont une catastrophe là-dedans parce qu'ils véhiculent. J'ai fait une chronique là-dessus il y a quelques semaines. Il y a des médias sociaux qui véhiculaient que les vaccins rendaient infertiles. Il y a évidemment aucune base scientifique.
Absolument.
Il y a des groupes ethniques, des groupes de personnes qui véhiculent à répétition ces faussetés-là et ça donne une...
Qu'est-ce que vous voulez dire, il y a des groupes ethniques?
Il y a eu des études aux États-Unis, je veux pas aller là-dedans, là, mais il y a des groupes ethniques et des mouvements religieux où il y a eu plus de où ces idées-là ont été véhiculées davantage que dans l'ensemble de la population. Il y a des associations religieuses qui ont été très nocives dans le véhicule de ces faussetés-là aux États-Unis.
Sans faire du profilage, on peut dire qu'il y a en effet certains groupes religieux ou certains groupes culturels qui sont plus réticents et qui véhiculent donc des fausses informations. Donc, c'est important de contrer cette désinformation-là. Docteur Béliveau, c'est toujours un plaisir de vous parler. Docteur en biochimie, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. À la prochaine déprime, la prochaine fois que je suis déprimé, ben, je vous appellerai pour que vous me remontiez le moral.
Bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Oui, en effet, c'est toujours passionnant de parler avec le docteur Béliveau et c'est comme ça que l'émission se termine. Je voudrais remercier Jean-François Paquet, la mise en onde à la réalisation, Florence Lamoureux à la recherche. Ben écoutez, je vous l'ai dit en début d'émission, je suis revenue sur l'entrevue avec Jean Héroldi et c'est bien la preuve que c'est Cube Radio que vous devez écouter, c'est là que ça se passe. Alors on se donne rendez-vous demain.